Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Le festival du film sur les droits de l'homme One World s'est achevé jeudi dernier, comme vous le savez. Parmi les films projetés à cette 12e édition, Mon voisin, mon tueur, de la réalisatrice franco-américaine Anna Guion. Pendant 10 ans, elle a tourné au Rwanda, dans un village en particulier, sur les conséquences du génocide de 1994 et sur le long et difficile processus de cohabitation entre les victimes et les tueurs. Comment vivre à côté de l'assassin de ses enfants? Comment réinsérer dans la communauté les bourreaux d'hier? Comment reconstruire une société divisée où les blessures sont encore à vif? Comment éviter encore qu'une telle tragédie ne se reproduise? Telles sont les questions qu'affrontent depuis quelques années Hutu et Tutsi et auxquelles les tribunaux appelés Gachacha tentent par une forme de justice particulière de répondre.
Il y a une trilogie de 3 films plus courts et Mon voisin, mon tueur, c'est le long. Qui englobe les 3.
Alors ces tribunaux spéciaux que vous évoquez dans vos documentaires, dans vos films, c'est des tribunaux qui s'appellent Gachacha. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut, comment oui. On peut le traduire et exactement à quoi ça correspond?
Gachacha, en fait, ça veut dire herbe, achacha. Et donc les gachacha, ça veut dire la justice sur l'herbe. Voilà, ça c'est la définition, enfin la traduction, définition du mot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Rwandais ont mis en place ce système qu'ils ont basé, je dirais, sur un système traditionnel de résolution de conflits. Mais les anthropologues juridiques vous diront que quand on prend un système traditionnel et qu'on en fait une loi, c'est plus un système traditionnel, c'est une loi. Voilà, ils ont décidé de mettre en place cette loi qu'ils ont appelée Gachacha et qui prévoit, qui est une loi assez très compliquée, qui a beaucoup évolué au cours des années. Et cette loi prévoit que les gens qui sont accusés de génocide au Rwanda, s'ils avouent leurs crimes et si leurs aveux sont acceptés, prévoient qu'ils aient une remise de peine substantielle et que même ils fassent une partie de leur sentence avec du travail d'intérêt général.
Quand vous dites accepter, que leurs aveux soient acceptés, c'est accepté par les victimes et les juges,
hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Pour remettre les choses en contexte, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu environ 800 000 morts au Rwanda. C'est un pays de 8 ou 9 millions d'habitants aujourd'hui. Et il y a environ 1 million de personnes qui ont été jugées par les Gachacha en 5 ans. Donc, le génocide s'est pas déroulé de façon uniforme à travers le pays et les Gachacha ne se déroulent pas de façon uniforme à travers le pays non plus. Les juges sont des gens comme vous et moi, normaux. Certains n'ont pas plus qu'une éducation primaire. Ils ont été formés extrêmement rapidement pour juger leurs voisins, quoi, leurs concitoyens. Donc, tout ça est très inégal.
Et ça coexiste alors en parallèle du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est encore évidemment une autre instance.
En fait, il y a 3, même 4 instances différentes de jugement des crimes de génocide au Rwanda. Il y a la justice traditionnelle rwandaise, enfin traditionnelle, c'est pas le bon mot, la justice normale, on va dire rwandaise, c'est-à-dire que les tribunaux pénaux normaux qui sont aujourd'hui censés juger les gens de première catégorie, qui sont donc des gens considérés comme étant des dirigeants, mais qui ont été arrêtés au Rwanda. Le tribunal pénal international, c'est pour les gens qui sont les gros planificateurs, mais qui ont été arrêtés à l'étranger. Donc il y a les Gachacha. Hein. Et puis il y a une quatrième juridiction, je dirais, qui est la compétence universelle. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, comme la Belgique, mais donc il y a la compétence universelle, qui est d'une autre instance, qui permet théoriquement de juger des gens accusés de génocide arrêtés dans les pays en question.
Alors quand vous avez filmé justement ces cours, ces gachacha, c'est un face-à-face qui doit être terrible, hein, entre les victimes et les bourreaux. Quelles sont les réactions justement de ces personnes, de ces accusés? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a du remords?
Je dirais qu'il y a assez peu de remords. La culture rwandaise veut qu'on ne partage pas ses émotions en public.
Et donc, c'est paradoxal alors d'avoir ces tribunaux finalement en plein jour, en plein public et en plein air.
Absolument, mais absolument, c'est paradoxal. Mais on n'est pas censé montrer ses émotions. Donc ça veut dire que on n'est pas censé pleurer, on n'est pas censé, enfin bon, tout ça. On n'est pas, et je pense que ça c'est pour, du côté des victimes, hein, du côté des rescapés, on n'est pas censé montrer sa douleur, etc., etc. Et je pense qu'il y a un peu de la même chose pour les gens qui ont participé au génocide et que ils ont. Je cherche pas du tout à excuser quoi que ce soit, hein, mais effectivement il y a pas de remords, mais c'est une façon aussi, je pense, pour eux de se protéger de leurs propres émotions, hein. C'est pas facile de je veux dire, je dis des choses toujours très compliquées et terribles à dire, mais c'est très facile pour nous d'identifier aux victimes et aux rescapés. C'est pas du tout facile pour nous d'identifier aux tueurs, aux gens qui ont participé, et je crois que c'est très compliqué d'imaginer la douleur que ça peut représenter pour eux d'être confrontés comme ça à leurs actes. Donc ils ont besoin, enfin j'imagine, hein, qu'il y a un besoin d'une espèce de distance comme ça, hein, par rapport à leurs émotions.
Et par exemple les victimes, est-ce qu'elles vous ont dit que ça les soulageait d'entendre quand même certaines choses qui sont dites, puisqu'il y a quand même des choses qui sont dites?
Oui, je pense qu'ils ont, enfin ça dépend, les gachachas c'est très compliqué, enfin les gachachas, c'est pas les gachachas, mais c'est très compliqué tout ce processus, parce que c'est pas tout blanc et tout noir. Je veux dire, ce processus a rouvert des blessures et rouvre des blessures que les gens ne voudraient pas avoir à confronter. Mais en même temps, je pense que dans certains cas, ça les soulage aussi.
D'ailleurs, ça s'incarne aussi dans un cas particulier, puisque vous filmez aussi ces femmes hutues mariées avec des Tutsis qui eux-mêmes ont été massacrés souvent par des Hutus. Quand vous disiez justement que c'est pas dans la tradition rwandaise de s'exprimer, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en confiance toutes ces personnes pour que justement elles vous disent ce qu'elles ressentent, et surtout je suppose qu'il y avait la barrière de la langue.
En fait, j'ai travaillé avec les mêmes collaborateurs quasiment depuis le début, donc j'avais un traducteur, enfin plusieurs, mais un principal, un interprète rwandais, et j'ai choisi les gens non pas parce qu'ils étaient bons interprètes, mais parce qu'ils avaient un bon contact avec les gens. Je pense que on a passé tellement de temps là, on est revenu tellement souvent sur voir les mêmes gens. Et à un moment, je suis un peu devenue, je fais partie de la famille, quoi. Il me disait, oh, t'as grossi. Oh, t'as bonne mine. Voilà, je dirais, personne n'a passé autant de temps à revenir comme ça sur une même colline pour voir comment les gens réagissent, quoi. Je veux dire, c'est près de 10 ans, c'est énorme.
Alors en plus, le Rwanda, on en parle beaucoup ces derniers temps, puisque le 25 février dernier, Nicolas Sarkozy est allé au Rwanda. Évidemment, on parle beaucoup depuis plusieurs années du rôle de la France dans le génocide. Il a parlé d'erreurs, il a parlé de formes d'aveuglement de la France à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'excuses. Est-ce que c'est déjà beaucoup d'après vous, ou c'est trop peu?
Je, vous savez, c'est très, comment dire, je pense que c'est bien, hein. Je pense que c'est très bien, je pense qu'il faut commencer quelque part. Il y avait peut-être des gens qui attendaient des excuses aujourd'hui, mais je pense que c'est de la même façon qu'avec les gens, ce sont des processus très longs d'arriver à admettre ou à reconnaître ou à voir ou à entendre les choses. Je pense que c'est la même chose dans ce cas précis, quoi. Il faut du temps pour que les choses trouvent leur place, quoi, et que chacun trouve sa place.
Est-ce que ce film, Mon voisin, mon tueur, vous l'avez montré au Rwanda, aux Rwandais, oui, aux personnes?
Oui, 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 absolument. Ils l'ont vu.
Quelles étaient leurs réactions?
Écoutez, je crois qu'ils sont très contents que le film existe. C'est pas facile, hein, pour eux de le voir, mais ils sont très contents que le film existe. Ils sont très contents d'y avoir participé. Ils ont vraiment J'ai fait une projection à Kigali en décembre. Et c'était une projection officielle à laquelle j'étais invitée et tout ça. Et j'ai invité quelques personnes du village à venir, de la colline. Et ils ont vraiment pris la mesure de ce à quoi ils avaient participé. Ça, c'était formidable. À chaque fois, j'ai montré le film sur la colline, mais ça, c'est pas pareil, je veux dire. Mais il y a un jeune homme qui est un des juges des Gachacha, qui était un rescapé et qui a été secrétaire des Gachacha pendant longtemps sur la colline et donc qui prenait des notes dans des petits cahiers d'écoliers, qui sont les cahiers sur lesquels sont enregistrées les minutes des procès à la main. Après la projection, il m'a dit c'est formidable parce que nos cahiers peuvent être brûlés, ils peuvent être déchirés, ils peuvent être disparaître, mais le film ne disparaîtra pas, donc l'histoire de la colline est racontée.
Est-ce que vous avez l'impression que finalement ce film aussi participe de ce processus de guérison?
Absolument.
De réconciliation?
De réconciliation, j'aime pas du tout le mot réconciliation parce que c'est un mot qui en demande trop. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est de la coexistence pacifique au Rwanda et c'est déjà beaucoup. Mais oui, je pense que à tous les stades du processus, le film a joué un rôle. C'est-à-dire que le fait de filmer a fait que les gens se sont posés des questions qu'ils ne se seraient pas forcément posées, qu'ils ont utilisé la caméra comme médiatrice presque, hein, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dites. Et certainement, ils ont réfléchi à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et aujourd'hui, je pense que le fait que le film soit montré a aussi un effet thérapeutique sur eux, sur les gens qui ont participé. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas oubliés.
Est-ce que vous allez retourner au Rwanda pour filmer encore, ou en tout cas personnellement?
Non, j'ai fini de filmer là, c'est bon.
La boucle est bouclée,
en tout cas pour l'instant. Maintenant, retourner au Rwanda, oui. Enfin, je veux dire, j'essaye de mettre en place aujourd'hui une série de projections de ciné mobile à travers le pays pour montrer le film et démarrer des groupes de discussion autour du film. Il faut savoir que les Gachacha vont bientôt s'arrêter. Elle devrait déjà être arrêtée, mais ça dure encore un peu. Et que c'est l'espace de parole qui existe aujourd'hui, grâce aux Gachacha toutes les semaines, même si avec tous les problèmes qu'il y a hein, autour des Gachacha, c'est pas un truc tout rose, loin de là. Mais l'espace de parole va disparaître. Et l'idée, c'est d'utiliser le film pour continuer ça. Sachant que le deuxième film que j'ai fait, je l'avais montré au Rwanda, il y a environ 40 000 prisonniers qui l'ont vu, dans les prisons et dans les camps de rééducation, enfin tout ça. Le deuxième film était spécifiquement sur l'impact du retour d'un prisonnier sur le village, sur la colline. Et donc le deuxième a été montré dans ce contexte-là, pour que les prisonniers en instance de retour sachent un peu à quoi ils allaient être confrontés. Je travaille là-dessus et puis j'essaie de mettre en place une série de projections aussi, un ciné mobile au Cambodge. Je dirais qu'au Rwanda, l'idée étant de montrer le film à des gens qui n'ont pas vécu la même chose que ce que les gens ont vécu, qui racontent leur histoire dans le film. Et c'est pareil, mais c'est simplement un échelon plus avancé. De le montrer au Cambodge ou dans d'autres sociétés en transition qui ont vécu ce type de situation et qui peuvent s'identifier à ce qu'ils voient à l'écran, ce qu'ils voient sur l'écran, et donc réfléchir à leur propre situation sans se mettre en danger directement, psychologiquement, parce que c'est leur histoire.
La réalisatrice franco-américaine Anna Guion était l'invitée de Culture Sans Frontières cette semaine pour évoquer son film sur le Rwanda, Mon voisin, mon tueur, présenté dans le cadre du festival du film sur les droits de l'homme, One World. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.